Bonjour, je m'appelle Guillemette, je suis journaliste à Ombres et Lumières, média spécialisé dans le handicap. Bienvenue dans le podcast La lumière d'une rencontre, réalisé avec le soutien de la Fondation OCH. Tous les deux mois, je vous propose de rencontrer quelqu'un de concerné par le handicap ou la maladie, ou qui y est sensible. Ce témoin nous partagera son histoire, parfois traversée par l'épreuve, et les chemins que la vie a pris pour la dépasser. Bonjour Charlotte Sainz.
Bonjour Guillemette.
Merci de me recevoir chez vous dans le 16e arrondissement à Paris. Vous avez 38 ans et depuis que vous êtes petite, vous vivez avec une maladie auto-inflammatoire douloureuse qui vous laisse peu de répit, qui s'appelle la cryopyrinopathie. Alors tout d'abord, que se cache-t-il derrière ce nom ? Quel est votre quotidien ?
Mais moi, j'arrive pas à prononcer le nom.
C'est compliqué.
On comprend.
Cette maladie.
Les cryopyrinopathies sont au nombre de trois. Et ces trois syndromes de gravité croissante. Je suis atteinte de la forme la plus grave qui s'appelle le syndrome 5A et qui se manifeste par de vives douleurs articulaires, musculaires, neurologiques qui sont quotidiennes, quasi constantes, particulièrement difficiles à soulager et qui entravent par moments les gestes du quotidien. Qui entraîne une extrême fatigue et une grande fatigabilité. Voilà. Donc mon quotidien, il est assez simple et il est ponctué d'un certain nombre de périodes où je m'allonge pour me reposer, récupérer, puis reprendre l'activité que j'ai arrêtée ou en prendre une nouvelle.
Voilà. Donc en soi, ça ne vous empêche pas de faire des choses, mais ça, c'est
sans cesse. Je fais les choses à mon rythme.
Voilà.
Voilà. Okay. Tout est une question de dosage et de rythme, de patience et de persévérance.
On imagine. Et à quel moment, le nom de la maladie a été posé ?
Alors, j'ai été malade dès la toute petite enfance. Dès mes 1 an, j'ai eu une chirurgie cardiaque. Et ensuite, après, ça a été 5 années d'examen en tout genre pour poser le diagnostic de syndrome 5A. Et là, j'avais 5 ou 6 ans. Voilà. Et c'est un laps de temps assez court pour poser un mot sur un nom de maladie sur une maladie aussi rare.
D'accord.
Donc 5 années, ça peut paraître long et en même temps, c'est une grâce d'avoir eu ce diagnostic aussi rapidement.
Mmh. À la fois pour vous et pour vos proches.
Oui, déjà pour mes parents, ça concrétise, c'est quelque chose de très concret. Quand vous arrivez avec votre enfant qui a de la fièvre en permanence et des petites choses un peu partout dans tous les sens, au bout d'un moment, le pédiatre, à force de vous voir plusieurs fois, il finit par ou être perdu ou plus écouter. Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir un oncle pédiatre qui est un excellent diagnosticien qui a tout de suite orienté mes parents vers les bonnes équipes. Donc on a vraiment été gâtés là-dessus.
Et quand on vit avec une maladie diagnostiquée jeune comme vous, est-ce qu'on vit tout le temps avec cette étiquette-là un peu posée sur soi ou vous arriviez quand même à avoir cette insouciance un peu propre à l'enfance?
Vous savez, un enfant, c'est insouciant. Hein. J'ai vécu une enfance comme n'importe quelle petite fille avec une enfance. Alors, c'est sûr, avec des fièvres, avec des douleurs, avec des réveils nocturnes, avec des bains donnés la nuit, des activités différentes des autres enfants, mais finalement avec la même insouciance de l'enfance. Et puis comme j'étais l'aînée, j'avais pas de point de comparaison. C'était pas sa première, donc pas comparée à mes sœurs. Et puis même une fois qu'elles sont arrivées, évidemment, elles pouvaient faire plus de choses que moi, mais il n'y a jamais eu de... Enfin voilà, non, c'est une enfance très, très normale. On se développe tout à fait tranquillement.
Et donc, vous avez une famille de sœurs, hein, de filles, c'est ça ?
On est quatre filles.
Quatre filles, ah, d'accord. Et, mais voilà, malgré tout, enfin, malgré la vie qui poursuit son cours, etc., vous avez quand même dû consentir à certains renoncements. Est-ce que vous avez pu passer le bac ou voilà, suivre les études que vous vouliez ?
Une maladie comme la mienne entraîne un certain nombre de limites dont on prend conscience de plus en plus et qui s'impose à vous de plus en plus. J'ai toujours eu le vif désir d'entreprendre des études. J'étais assez passionnée, que ce soit l'histoire de l'art, la littérature. Mes centres d'intérêt étaient vastes et variés. Et le désir de poursuivre au-delà du bac également. Mais il se trouve que le bac s'est terminé aux urgences. Et donc là, il y a eu un grand renoncement à faire qui a été d'accepter que eh bien, ma vie vaut plus, beaucoup plus, et que n'importe quel diplôme et n'importe quel titre universitaire et n'importe quelle carrière, n'importe quelle... En fait, voilà, il a fallu réfléchir. Qu'est-ce que la vie ? Est-ce que c'est la réussite telle que les hommes se l'imaginent ? Des belles études, une belle carrière, une belle réussite socio-professionnelle ? Ou est-ce qu'on peut la réussir, on peut la bâtir, la construire autrement, tout en s'épanouissant ? Évidemment, ça se fait pas sans larmes. Si vous laissez un choix à faire, ou je pouvais passer ma vie entière à me lamenter de ce qui m'était impossible de faire, ou je pouvais essayer de passer ma vie entière à essayer de correspondre à l'image que le Christ a de moi et ce qu'il attend de moi. Et la question était, mais qu'est-ce qu'il attend ? Voilà. Et ça, on découvre tous les jours, chaque jour un petit peu plus, avec certainement des interrogations, c'est certain.
Et donc, vous n'avez pas fait d'études ou alors vous avez quand même...
Non, ça s'est arrêté, voilà, ça s'est arrêté là. Et du coup, après, j'ai été directement en stage chez un galeriste, chez un expert en art. Il y a d'autres moyens d'acquérir des compétences.
Mais donc, Charlotte Sainz, votre... épanouissement, enfin voilà, vous êtes épanouie à travers d'autres voies, d'autres projets. Voilà, pour citer certains d'entre eux, vous avez été présidente d'une troupe de théâtre. Vous êtes nourrie par une formation en bioéthique. Et récemment, en avril 2023, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le prix de la jubilation » qui est paru chez Artege. Alors, pourquoi avoir voulu... pourquoi avoir écrit ce livre ?
Ce livre, je l'ai écrit à la suite d'un article qui a été publié dans Femmes chrétiennes à l'issue du premier confinement. Et Loïc Mérian, l'éditeur d'Artege, m'a appelé et m'a demandé de développer la réflexion entamée dans cet article. Donc, si j'ai accepté, c'est non pas tant pour parler de moi-même ou pour avoir une écriture cathartique pour réparer des blessures, c'est vraiment certes, je suis malade, certes, je souffre, mais. Justement, tout ce que je vis, tout ce que je vois, m'entraîne vers, m'invite à réfléchir. Et c'est donc ce que je propose, c'est cette réflexion. Et voilà. Donc, ce qui compte pour moi, c'est la vie, la mort, l'espérance. La vie, c'est le pourquoi de nos bonheurs, la relativité de nos malheurs. C'est aussi ce qui nous touche, c'est la joie, c'est la souffrance. Et je m'appuie, en m'appuyant sur du vécu, le mien, celui de, que j'observe chez d'autres personnes. Et voilà. Et donc, et j'ai voulu donner une grande place à l'espérance, parce qu'il nous faut, il est urgent de remettre l'espérance au cœur de nos vies et de la société. Et pour moi, la réponse, enfin voilà, quelle place pour l'espérance et comment la. Pour moi, la réponse est une évidence lumineuse. Le centre de ma vie, c'est le Christ. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu proposer dans une réflexion, dans des méditations à travers ce livre.
En effet, oui, ce livre, c'est plein de thèmes différents que vous explorez. Voilà, ce sont des courtes méditations voilà, sur le corps, la joie, la souffrance, plein de thèmes différents. Comment vous avez travaillé ce livre, hein, vous jetiez un peu vos idées sur un carnet. Comment vous l'avez un peu construit?
Alors comme je vous le disais, c'est le fruit de réflexions, donc des réflexions qui ont mûri avec les années. J'avais quelques carnets de notes. Et je porte une grande attention aux questions éthiques. Comme vous l'avez dit, j'ai suivi une formation à l'Institut Jérôme Lejeune, une formation en bioéthique. Et alors, la maladie, je la vis à travers mon corps, mais je la vis aussi en tant que témoin, c'est-à-dire en observant les autres et en observant le milieu hospitalier, le monde des chercheurs, le monde médical. Donc voilà, l'éthique, ce ne sont pas uniquement des principes moraux désincarnés. On ne peut pas décréter, par exemple, quand on est confronté à des maladies extrêmement douloureuses, difficiles, pesantes à vivre, on peut difficilement, face à un malade, décréter que d'être euthanasié, c'est un progrès et un droit. Et donc voilà, donc si j'ose dire, quand on est dans le vif du sujet, toutes ces questions, tous ces principes moraux, toutes ces questions ont des implications très concrètes.
On reparlera en effet de tout ce qui est autour des questions de bioéthique et notamment sur le débat actuel sur l'euthanasie dans une autre, un peu plus tard peut-être. Et je voulais revenir avant sur la place qu'occupe aussi la réflexion sur le corps.
Oui.
Il y a une citation dans votre livre que je trouvais à la fois belle et qui m'intriguait. Donc je la cite. Vous écrivez « Notre corps est la plus belle pièce d'orfèvrerie de la création. Le corps de l'homme est ciselé par son créateur. » Alors moi, je me suis quand même posé la question. Voilà, vous, dans votre corps, vous vivez voilà, cette souffrance, cette fatigue que vous évoquiez tout à l'heure. Alors comment écrire ça?
Alors c'est vrai que ça peut paraître assez paradoxal quand on a un corps labouré par des douleurs, de s'en émerveiller et pourtant, je m'émerveille devant notre corps. C'est, comme on le disait tout à l'heure en introduction, j'ai une maladie auto-inflammatoire, c'est-à-dire que l'organisme s'attaque à lui-même, alors qu'habituellement, une réaction inflammatoire arrive lorsqu'on tombe, on se casse la jambe et ça entraîne tout un tas de réactions inflammatoires. Moi, je n'ai pas besoin de tomber, pas besoin de me casser la jambe. Tout se développe tout seul, sans incident. Donc, mon système immunitaire s'attaque à mon propre organisme et ça ne m'empêche pas d'être ébloui par l'équilibre, l'harmonie inouïe de notre corps. Voilà, tout est à sa place, c'est extraordinaire hein, quand on pense au cœur, quand on pense aux poumons, quand on pense à tout ce qui nous permet de vivre au quotidien, c'est pas une invention humaine, il ne peut y avoir qu'un créateur derrière.
Et justement, vous parlez de ce créateur, peut-être quelques mots sur votre chemin de foi. Vous êtes catholique pratiquante, est-ce qu'il y a eu une rencontre, une étape dans votre vie décisive, voilà, dans votre chemin de foi ou non?
Alors, je pense que c'est tout simplement c'est une foi paisible, apprise sur les genoux de mes parents, de mes grands-parents, Avec toutes les étapes de la première communion, enfin toutes les étapes de la vie chrétienne, mais sans quelque chose, sans un événement particulièrement fulgurant. C'est quelque chose qui a été semé par mes parents, par mes grands-parents, qu'ils m'ont appris à cultiver et ensuite. De moi-même, je l'ai cultivé. Enfin,
l'ai choisi pleinement. Voilà. Oui. Et justement, sur ce chemin-là, est-ce qu'il y a des moments où vous criez un peu vers Dieu en disant « bon, là, j'en ai marre ».
Alors, le ras-le-bol, oui. oui, puisque c'est pas facile tous les jours. Il y a souvent des larmes. Mais... Je crie trop, c'est trop. Mais je ne crie pas de révolte contre Dieu. Je ne l'en juge pas responsable. Il nous a donné son fils qui est mort sur la croix et qui est mort dans des souffrances absolument inimaginables, qui dépasse toutes celles que je ne pourrai jamais vivre, toutes celles que l'on ne pourra jamais vivre. Quand on décrit les descriptions qui ont été faites par des médecins en étudiant le linceul du terrain, c'est insoutenable. Donc voilà, et ça, c'est l'acte d'amour le plus inouï. Ce Christ a donné sa vie pour nous et jamais il ne pourra désirer, vouloir que nous souffrions. Et donc non, j'ai absolument aucune raison de je peux lui dire stop, aidez-moi. Je peux être épuisée, ne plus avoir la moindre force. Et là, dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est lui demander encore plus de grâce. Les grâces, il ne cesse jamais de les donner. Et il ne faut surtout pas oublier de les lui demander. Ça, c'est absolument essentiel. Et même quand on est épuisé au bout du rouleau et qu'on n'a pas la force d'un seul « Je vous salue Marie », et ben, c'est juste crier « Donnez-moi votre grâce, Seigneur ». Toute la prière est là, en fait.
Se tourner vers lui.
Se tourner vers lui. Avec les mots simples, il n'y a rien d'extraordinaire à inventer. Juste s'adresser à lui comme dans une conversation, comme on s'adresse à un ami en lui disant « Je suis tombée, aide-moi à me relever ».
Je crois que une de vos saintes favorites, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Pourquoi ? Comment vous l'avez un peu découverte et qu'est-ce qui vous inspire chez elle ?
Alors, il est vrai que je parle beaucoup de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a pris une place importante dans ma petite enfance vers le CP. Dès que j'ai su lire, je me suis plongée dans l'histoire d'une âme. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est une jeune femme qui était extrêmement sensible, qui a traversé beaucoup d'épreuves et qui a perdu sa mère. Ensuite, ses sœurs sont rentrées les unes après les autres au Carmel. Elle a trouvé une voie toute particulière pour s'abandonner totalement à Dieu. Si vous voulez, il y a une rupture totale avec le jansénisme ambiant des siècles précédents qui teintait encore un peu le 19e siècle. Et elle se tourne totalement vers Dieu, vers la Vierge Marie, et avec des petites choses du quotidien. Mais vous savez, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une sainte parmi d'autres. L'Église nous donne en exemple, porte sur les autels, un certain nombre d'autres saints qui sont vraiment propices à nous faire grandir. Vous avez un Saint Ignace de Loyola, le discernement de toutes les questions, le discernement des esprits est absolument extraordinaire. Et justement, ça fait partie, Saint Ignace de Loyola fait partie des saints qui m'ont guidé dans ses choix à faire, dans ses acceptations à faire. Est-ce qu'il fallait me tuer à la tâche pour absolument correspondre à la vie telle que le monde la conçoit, ou est-ce qu'il fallait trouver une voie plus particulière?
Vous évoquiez tout à l'heure que vous aviez donc suivi une formation en bioéthique à l'Institut Lejeune. Et donc dans votre livre, même dans toutes les réflexions que vous portez, vous défendez que la vie, même faite de souffrance, peut être source de joie, peut être source d'espérance. On a l'impression que c'est quand même peu audible aujourd'hui dans notre société. Qu'est-ce que vous inspire le débat actuel sur, il y a une réflexion autour de la légalisation du suicide assisté en France. Quand vous avez appris ces nouvelles-là, vous avez lu ce qui se passait dans l'actualité, quelles ont été un peu vos premières réflexions? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux dirigeants, peut-être?
Alors, aucune surprise de voir ce débat revenir sur le sujet, hein, il n'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on essaie de faire évoluer les lois de bioéthique vers une euthanasie active. Et une vive inquiétude, parce que, d'une part, il faut quand même bien mettre les choses au point, ce n'est en aucun cas à l'État de réglementer la mort et d'inventer une bonne façon de mourir. Ensuite, que traduit cet acharnement à vouloir implanter dans nos lois l'euthanasie, il faut quand même bien voir une chose, c'est un assassinat. C'est le rétablissement de la peine de mort. Hein. Donc, quand même un con, on est quand même dans un pays qui avons aboli la peine de mort, et on en vient à rétablir cette peine. Et le plus odieux, c'est qu'on l'a rétabli pour les plus fragiles. On l'a rétabli pour ceux qui n'ont plus la force, pour certains d'entre eux, c'est pas le cas de tout le monde, pour beaucoup qui n'ont plus la force d'exprimer leur dignité qui perdure quel que soit notre état. Mourir dans la dignité, c'est un fauné qui est destiné à cacher ce qu'est la bonne mort, c'est-à-dire c'est la mort... C'est cacher pourquoi et comment avoir une bonne mort, une mort catholique dans la foi et l'espérance, et c'est parce que la vie éternelle nous est promise. Par ailleurs, ce qui m'inquiète, c'est que pour tous ceux qui se battent pour leur vie, au sens propre du terme, alors il faut quand même bien noter qu'on peut tous, même si on est en bonne santé aujourd'hui, ça peut tous nous arriver. Vous pouvez sortir d'un bilan chez votre cardiologue qui vous dit, si on ne vous en perd pas dans 8 jours, on ne vous donne pas un mois. Donc, j'ai un cousin qui est mort d'un accident de moto, il avait 25 ans, ça s'est subi. Dans le premier cas, où chez le cardiologue, vous avez quelque part la grâce d'un avertissement où vous pouvez reprendre votre mie en main et essayer de vous remettre dans les mains de Dieu. Dans le cas de la mort subite, alors on ne sait évidemment pas ce qui se passe au dernier instant, mais voilà. Et donc, pour revenir à ce qui m'inquiète pour tous ceux qui se battent pour leur propre vie, quel message on leur envoie, en fait, en un mot, mais... arrêtez de supporter, enfin, finalement, ce que vous supportez, ça n'a aucun sens. Au lieu de nous dire, on va vous aider, on va trouver comment soulager votre douleur, on va trouver comment vous accompagner, on va vous soutenir par notre présence. En fait, on se trompe de réponse, et c'est ça qui est dramatique. C'est le plus dramatique, c'est qu'on fait croire qu'il n'y a qu'une seule issue, alors que c'est faux. Seulement, les autres choix, ce sont des choix de société qui nous demandent beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'investissements, que ce soit affectif, émotionnel, financier, des familles, de l'État, etc.
Parce qu'en effet, je rebondis sur ce que vous dites. Il y a beaucoup de demandes d'euthanasie qui sont faites parce que la personne se sent seule ou se sent être potentiellement un poids pour ses proches.
Oui, mais alors, celui qui se sent un poids pour ses proches, il se sent un poids pour ses proches parce qu'il sent la fatigue légitime, naturelle, normale des proches. Et c'est vrai, hein, d'accompagner... je suis malade, mais je suis aussi accompagnatrice de gens qui, dans ma propre famille, qui ont de lourdes maladies. Et c'est vrai que c'est épuisant, mais dans ce cas-là, il faut aussi aider les familles pour que les familles puissent continuer à maintenir cette présence aimante. Nous avons tous une grande responsabilité vis-à-vis de nos parents, de nos grands-parents. Si vous voulez, à vouloir le bonheur sans la croix, sans le Christ, on se coupe de toute espérance. Et la mort sans l'espérance, c'est du violence inouïe. Or, c'est exactement ce que propose l'euthanasie. L'illusion qu'on va avoir une certaine maîtrise de la mort par des astuces médico-techniques nous rend insoutenable l'idée de penser à la mort, l'idée de penser à la souffrance et l'idée de souffrir soi-même en accompagnant ceux qui sont à la fin de leur vie, qui traversent de grandes douleurs. Et je pense que l'euthanasie n'est pas une véritable compassion, c'est un mensonge. Ça ne pourra jamais être de la compassion. La véritable compassion, c'est de prendre une chaise, de s'asseoir auprès de la personne, de tenir la main, même dans le silence, c'est d'être là. Évidemment, on a besoin soi-même de temps de ressourcement, mais la véritable compassion, c'est de montrer que l'on aime et d'aimer. Il ne peut pas y en avoir d'autre. Avec tout ce que ça implique comme difficulté, il ne faut pas le nier, mais c'est ce qui fait l'honneur d'une civilisation, c'est d'être là au chevet des plus fragiles.
Et sur ces questions-là, justement, est-ce que vous avez pris la parole, est-ce que vous avez eu envie de dans votre livre, vous en parlez ?
Oui.
Est-ce que, je ne sais pas, médiatiquement ou est-ce que vous avez déjà...
Alors, médiatiquement, je me vois assez mal aller m'enchaîner aux grilles de l'Assemblée nationale.
C'est pas demandé à tout le monde.
Ou initier une grande grève de tous les malades. En plus, on n'aurait pas tellement d'impact.
Je dis ça parce que, on a l'impression qu'il y a, c'est quand même beaucoup des questions qui sont pensées par des personnes qui sont souvent bien portantes.
Oui.
Il y a quand même quelques cas médiatiques. Alors,
vrai que le débat sur la place publique est très occupé par des gens qui sont bien portants. Mais attention, ça ne veut pas dire que par eux-mêmes, derrière, ils n'ont pas eu à vivre ça dans leur entourage, etc. Mais oui, c'est un débat. Vous prenez Philippe Pozzo di Borgo, un brillant chef d'entreprise, aristocrate, avec qui, on va dire, les choses souriaient. Et il disait lui-même que si on lui avait posé la question à l'époque où il était en pleine santé, si vous vous retrouvez dans un état de tétraplégie ou de Kendrick syndrome, enfin peu importe, est-ce que vous, quand vous proposez l'euthanasie, diriez-vous oui ? Il a dit oui. À l'époque, oui, c'est ce que j'aurais dit. Mais aujourd'hui, maintenant, non. Maintenant que j'ai eu cet accident de parapente, je paraphrase. Mais voilà. On ne peut pas anticiper la façon dont on va réagir. On ne peut pas savoir comment on va traverser une épreuve. Je le vois dans toutes les épreuves que je traverse. Quand elles vous tombent dessus, certaines paraissent absolument insurmontables. Mais finalement, vous rencontrez toujours des personnes qui vont vous aider, toujours des personnes qui vont vous redonner l'énergie, vous soutenir. Et surtout, le regard, en fait, vous êtes de continuer à être important pour les autres. Dans les débats, qui on voit sont les intellectuels, les philosophes, quelques médecins, et encore, pas forcément ceux qui accompagnent réellement au moment de la mort dans les soins palliatifs. Si on les interroge, ils sont en très grande majorité farouchement opposés à l'aide active à mourir ou à la mort dans la dignité. Enfin, on peut lui donner le nom qu'on veut, peu importe. Et ils disent eux-mêmes qu'en apportant les bonnes solutions, les bons soins. La plupart des patients qui arrivent en service de soins palliatifs, c'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment le témoignage de médecins qui sont... c'est leur quotidien. La plupart des patients, quand ils arrivent avec une demande d'euthanasie, du moment où on les prend en charge dans toute leur globalité, où on les regarde comme des personnes humaines, où on arrête des soins qui sont parfois trop coûteux en termes d'effets secondaires, qu'on donne une plus grande place à la famille, à l'accompagnement spirituel, et qu'on écoute la détresse, rien qu'avec tout ça, on apaise énormément les désirs de mort, en fait. Et on se rend compte qu'il reste toujours un désir de vie. On est fait pour la vie, en fait. On est fait pour la vie, alors pas seulement pour cette vie terrestre, mais on est fait pour la vie éternelle. Et on a besoin d'arriver à notre rythme, au moment de notre mort. Parce qu'il y a énormément de choses qui se vivent à ce moment-là. J'en ai été témoin à plusieurs reprises avec mes grands-parents. Et ce sont des moments que j'ai eu la chance de vivre à leur côté. Ô combien ça a été riche, tant pour eux que pour la famille. Ô combien il se passe de choses.
Et de vivre sa vie jusqu'au bout de la vie. Mais cette importance-là.
Jusqu'au bout, c'est pas donner la mort, c'est accompagner la vie.
Et vous évoquiez aussi l'importance de l'accompagnement, parce qu'en effet, la question de l'euthanasie est souvent corrélée à la solitude, voilà, au désarroi que peuvent ressentir légitimement voilà, certaines personnes. Et c'est vrai qu'on se sent toujours très démunis face à la souffrance de l'autre.
Oui, c'est violent la souffrance de l'autre.
Pas quoi faire, voilà, on est, c'est une forme de violence. Alors vous, j'avais envie de vous poser cette question. Vous-même qui voilà, connaissez cette souffrance, quelle est l'attitude de vos proches que vous aimez ou quel conseil un peu vous pourriez peut-être donner à des proches voilà, qui sont parfois démunis face aux souffrances de quelqu'un?
La présence. La simple présence, c'est apaisant. C'est apaisant. C'est quelque chose qui est connu des médecins quand vous avez un patient hospitalisé et qu'il reçoit une visite. À ce moment-là, il est mieux. Il est mieux parce qu'il y a une présence aimante. Il y a une présence... la douleur dans la solitude, c'est difficile. Et la présence, ça fait partie du soin qu'on peut donner, ça fait partie de l'aide qu'on peut apporter. Et puis, même si on n'a pas grand-chose à dire, on n'est pas obligé de partir dans des grands discours. Et si la personne dit « j'en peux plus », voilà, c'est pas la peine d'essayer de dire « mais non ». Il faut juste laisser le ras-le-bol s'exprimer. L'écoute, voilà, la présence, l'écoute et le regard. C'est simple, hein, y a pas de recette magique, y a pas de mode d'emploi. Et puis aussi d'un patient à l'autre différent, mais déjà présence, écoute et regard.
Et de ne pas, ça paraît simple, et en même temps, voilà, de ne pas détourner le regard. De ne pas essayer de fuir en se disant je ne saurais pas comment faire. Enfin, c'est ça que
qu'on se sent un peu qu'on se sentir un peu ballot, un peu démuni. Écoutez, moi c'est normal, ça m'arrive quand je suis dans la chambre d'un grand malade. C'est pas parce que je connais moi-même la grande souffrance. Enfin, c'est celui qui est devant moi sur son lit de douleur n'a pas forcément la même façon que moi de la vivre, ni même les mêmes douleurs, les mêmes tourments spirituels, psychologiques, physiques. Et donc oui, la souffrance de l'autre démunie fait écho à notre propre difficulté, à notre propre peur. Et là encore, en fait, j'ai rien d'autre à rajouter que présence, écoute et regard. Et ça va dans les deux sens, hein, parce que même la personne qui est sur son lit, elle peut elle-même être silence, elle peut elle-même être écoute, et elle peut. Et c'est souvent, en fait, c'est souvent une relation. C'est pas à sens unique.
Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes malades témoignent que elles sont l'oreille de beaucoup de personnes, comme si les masques tombaient.
Ah ben, je pense que oui, on se dévoile totalement. On n'a plus la possibilité de tricher.
Et peut-être pour finir un peu cette conversation, est-ce qu'il y a des projets ou des rêves qui sommeillent en vous?
Mon entourage vous dira qu'on me trouve toujours là où on ne m'attend pas.
D'accord.
Je sais souvent moi-même pas là où je vais, où mes pas vont me diriger. C'est comme ça que je me suis retrouvée à la tête d'une troupe de théâtre et puis ensuite à écrire ce livre. Et alors, de quoi demain va être fait, je sais pas. Par contre, j'ai un grand désir, vraiment un très grand désir, c'est que chacun puisse rencontrer le Christ. En but de son salut et pour son bonheur, pour son bonheur éternel. Et la gloire de Dieu, évidemment.
Un grand merci, Charlotte Sens, pour cette conversation. Merci pour votre regard d'espérance. Et merci pour votre témoignage.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Lumière d'une rencontre, le podcast réalisé par la revue Ombres et Lumières et la Fondation OCH. Merci de l'avoir écouté. Si ces thèmes vous intéressent, je vous invite à découvrir notre revue en allant sur ombreseslumieres.fr. À bientôt!